France Musique. Musicopolis. Ruth Crawford Seeger, ultramoderne ou populaire ? Je voudrais commencer par une comparaison, un genre de avant-après, comme on pourrait en trouver dans un magazine à sensations, ou un jeu du style « Quelle est la différence entre… » Alors donc, pouvez-vous imaginer que les deux morceaux que je vous propose ont été écrits par la même personne ? L'extrait numéro 1. Et l'extrait numéro 2. Alors, même compositeur pour ces deux morceaux ? Vous ne me répondez pas, amis auditrices et auditeurs, mais je me doute que vous devinez la réponse. En effet, c'est bien la même personne qui a composé les deux. C'est une compositrice, Ruth Crawford Seeger. Et maintenant, une deuxième devinette. Dans quel ordre les a-t-elle écrits ? Vous ne répondez toujours pas. Peut-être bien que vous passez votre tour. Puisque vous hésitez, je vais vous donner la réponse. Ruth Crawford Seeger a composé d'abord le premier morceau, celui qui paraît le plus moderne et dissonant, et ensuite le deuxième, inspiré par la musique populaire états-unienne. Vous remarquerez que plus on va vers la fin du morceau, qui est très court, moins de 3 minutes, plus le tissu sonore s'enrichit, comme si nous pénétrions au centre d'une fête réjouissante, pleine de sons et de mélodies différents. Comment se fait-il que cette compositrice, Ruth Crawford Seeger, soit passée d'un style d'avant-garde à un style plus populaire ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir séance tenante. Et pour commencer, revenons au début de l'histoire. « Ruth Crawford, c'est son nom de jeune fille, est née en 1901 dans l'Ohio. Son père était pasteur méthodiste et la famille a pas mal bougé jusqu'à s'établir en Floride, à Jacksonville, grande métropole du sud-est des États-Unis. La petite fille a pris des leçons de piano dès l'âge de 6 ans. À l'école, elle fait preuve de beaucoup de curiosité intellectuelle et philosophique. Elle aimerait beaucoup devenir écrivaine. Mais lorsqu'elle termine son lycée, on lui demande d'enseigner le piano au conservatoire de Jacksonville, où elle-même poursuit ses études musicales. Elle a 19 ans lorsque, grâce à un petit pécule venu de sa famille, elle choisit d'entrer au conservatoire de Chicago. Elle est tout de suite très appréciée de ses professeurs. Ruth Crawford profite au mieux de ses cours et de l'environnement culturel de Chicago au début des années 20. Elle obtient ses diplômes du conservatoire et tout en enseignant elle-même, elle prend des cours de piano avec une Madame Hertz qui a vécu auparavant à Toronto et à New York où elle a toujours eu une grande activité musicale. Madame Hertz a étudié avec Scriabine et elle transmet à ses propres élèves aussi bien la musique que la philosophie de son maître. Elle est aussi une figure importante à Chicago dans le paysage musical et grâce à elle, Ruth Crawford va rencontrer beaucoup de musiciens comme par exemple Henry Cowell, une figure de l'avant-garde. Son environnement musical s'élargit. Chez des amis à Chicago, Ruth Crawford a l'occasion d'écouter des disques rapportés d'un récent voyage en Europe, avec les dernières productions contemporaines. Elle rencontre également Carl Sandburg, un poète socialiste qui se passionne pour le chant populaire et pour l'histoire orale des États-Unis. Il publie notamment « The American Song Bag », le sac à chansons américain, qu'il compare à un sac de chiffon plein de rayures multicolores venues de presque tous les coins de la Terre, riche de la diversité des États-Unis. Un éditeur demandera plus tard à Ruth Crawford d'ajouter des accompagnements à ses chants. En attendant, elle continue à composer dans un style qu'elle façonne peu à peu.
Smash to the heart under the ribs with a
Pendant l'été 1929, au terme de ses études à Chicago, Ruth Crawford a l'occasion de passer l'été à la colonie McDowell, dans le New Hampshire, un genre de camp de vacances pour compositeurs. C'est juste après que, sur le conseil d'Henry Cowell, Crawford se décide à s'installer à New York. Elle est accueillie chez une riche veuve, mécène et amie de nombreux compositeurs d'avant-garde. Cowell convainc son propre professeur, Charles Seeger, d'accepter Ruth comme élève. Elle commence à travailler avec lui en 1929. Charles Seeger est d'abord très réticent à l'idée de prendre Ruth Crawford comme élève. Il pense que, puisqu'on ne mentionne pour ainsi dire pas de femme dans l'histoire de la musique, il y a bien une raison, et il va perdre son temps. Il est très surpris de découvrir toutes les possibilités de Ruth. Lui-même est un farouche adepte du modernisme et de la dissonance. Ils travaillent ensemble et il est de plus en plus séduit par son talent. Elle a une conception très avancée de la composition, dans laquelle elle cherche à organiser tous les paramètres du son, les hauteurs, les durées, les rythmes, etc., comme le feront les compositeurs dans les années 50. Non, ce n'est pas une étude de Ligeti des années 80, c'est bien une étude de Ruth Crawford de 1930. Reprenons le cours de la vie de notre compositrice. À New York, elle fréquente un groupe de compositeurs parmi les plus d'avant-garde du pays. Elle est reconnue comme l'une des meilleures d'entre eux. Elle obtient une bourse Guggenheim pour aller voyager en Europe. Elle est la première femme à qui cette bourse est accordée. Elle va aller à Berlin, à Vienne et à Paris. Sa rencontre avec Berg est d'une grande importance pour elle. Elle rentre aux États-Unis, elle continue à composer. En 1931, elle écrit son œuvre aujourd'hui la plus jouée et enregistrée, son Quatuor à cordes. 1932, Ruth Crawford épouse Charles Seeger, son professeur. C'est l'époque où la crise fait rage, où de nombreux compositeurs se demandent ce qu'ils peuvent faire en tant que musiciens pour aider les gens. Les Seeger ont des idées qu'on dirait chez nous de gauche. Et Ruth réfléchit intensément à la place de la musique dans la société. Elle compose des mélodies sur des poèmes de Carl Sandburg, qu'elle a connu à Chicago. Elle fait partie d'un collectif de musiciens dont le but est de connecter la musique d'une manière ou d'une autre avec la situation économique. Elle écrit deux mélodies sur des textes d'un poète communiste dans l'idée de composer de la musique prolétarienne.
I came to America 3 days after my marriage. When can I see her again? Only the almighty dollar knows. Dry, dry, why do clothes dry but not my tears? I work 12 hours a day. He pays $15 a week. My boss says...
En 1933, Ruth Crawford Seeger donne naissance à son premier enfant. Elle a toujours voulu des enfants et elle a envie de s'y consacrer. Sur le plan de son travail de création, elle est maintenant persuadée qu'il faut composer un autre genre de musique pour aider les gens, qu'il faut retourner vers la musique populaire. Elle fait des séances de chant dans des écoles maternelles et sa méthode chaleureuse et inventive est plébiscitée par les organisations de professeurs. Elle chante, elle fait chanter.
An old gray mare. Once I had an old gray mare, once I had an old gray mare, once I had an old gray mare, and a back wore out and a belly bare. Had a little link, think that little day, got a little link, think that little day. Then I took it to the creek, then I took it to the creek.
À la fin des années 30, Ruth Crawford Seeger travaille avec John et Alan Lomax. John, le père, ethnomusicologue, est à la tête des archives de la chanson populaire américaine à la Library of Congress à Washington. Elle doit transcrire les chansons qui ont été collectées et enregistrées. Elle écoute des milliers de chansons et elle travaille dur à les transcrire. Elle a alors 3 enfants en bas âge, elle en aura bientôt 1/4. Elle publiera plusieurs volumes de chansons populaires et 2 de ses enfants, Mike et Peggy Seeger, les enregistreront bien des années plus tard.
Little red wagon painted blue, little red wagon painted blue, little red wagon painted blue, skip it to my Lou, my darling. Lou, Lou, skip it to my Lou, 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 skip it to my Lou, 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 skip it to my Lou, skip it to my Lou, my darling.
Piggy in the parlor, what'll I do?
Piggy in the parlor, what'll I do? Piggy in the parlor, what'll I do? Skip it to my Lou, my darling. Lou, Lou, skip it to my Lou, 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 skip it to my Lou, 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 skip it to my Lou, skip it to my Lou, my darling. Going to market 2 by 2, going to market 2 by 2, going to market 2 by 2, skip it to my Lou, my darling. Lou, Lou, skip it to my Lou, 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 skip it to my Lou, 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 skip it to my Lou, skip it to my Lou, my darling.
À partir de la naissance de son premier enfant, Ruth Crawford Seeger a arrêté de composer de la musique de concert, comme on dit aux États-Unis. D'une part pour des raisons pratiques évidentes. Il n'est pas commode de prendre le temps de créer et en même temps de s'occuper de ses enfants sans moyens pour se faire aider. D'autre part, la crise économique faisait aussi qu'il était très difficile de se faire jouer et qu'elle ne pouvait attendre aucun revenu de ses œuvres. Et puis, pendant un certain temps, elle a aussi des raisons plus idéologiques. À cette époque, d'autres compositeurs font aussi le choix, mais peut-être de façon moins radicale, de revenir vers une musique qui soit directement accessible pour les gens, ceux qui souffrent dans leur chair à cause de la crise. Et le moyen est justement pour Ruth Crawford Seeger de leur rendre leur musique, la musique populaire, dans toute sa fraîcheur, telle qu'elle était avant d'être en quelque sorte dévoyée par les circuits commerciaux. C'est ainsi qu'elle se consacre aux transcriptions et publications de chansons populaires et qu'en 1939, elle compose ce « Risolti Rosolti » inspiré d'une chanson populaire que je vous faisais entendre en début d'émission. Mais ce sera sa seule tentative dans le genre.
Thank you.
Ce n'est qu'en 1952 que Ruth Crawford Seeger revient à la musique de concert. Elle compose une suite pour quintette avant qu'elle présente à un concours et qui remporte le premier prix. Elle a, semble-t-il, dans l'idée que ses enfants sont alors assez grands pour se débrouiller et qu'elle peut revenir à sa création telle qu'elle l'entend. Mais elle va mourir d'un cancer l'année suivante, à 52 ans. Dans quel style aurait composé Ruth Crawford Seeger si elle avait vécu ? Dans un style moderniste d'avant-garde ? Dans un style plus accessible ? Dans un style inspiré de la musique populaire ? Question désormais sans réponse. Allegro Possibile, le troisième mouvement de la suite pour quintette avant de Ruth Crawford Seeger par le Schoenberg Ensemble. Le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Julien Douminc pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.